21h passées de quelques secondes sur Radion. Très bon début de soirée à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur l'antenne de votre radio locale pour le 316e numéro de votre émission littéraire. C'est en effet Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. À quelques jours des commémorations de l'armistice du 11 novembre 1918, votre émission a choisi aujourd'hui de vous proposer des lectures de correspondances de familles de Lyon durant la Grande Guerre. Et pour nous offrir ces lectures, je reçois devant notre micro un comédien professionnel, metteur en scène, et que j'accueille avec grand plaisir. Bonsoir Aldo Magno.
Bonsoir Yannick, et puis bonjour, bonsoir à Radion.
Aldo, comédien, je l'ai dit, et créateur de la troupe qui a pour nom En compagnie des anges, mais pas que, troupe qui a d'ailleurs, il y a de nombreuses années maintenant, mise en scène des lectures de textes échangés durant la Grande Guerre.
Oui, donc ça s'est fait un peu en trois phases. Il y a eu une première phase où donc Michel Mauny, qui a récupéré plus de 1500 lettres de son grand-père dans un grenier, est venu faire une conférence donc à Tonnerre pour présenter son livre et ses lettres, en parler. À la fin de cette conférence, je lui ai demandé si on ne pouvait pas en faire un spectacle. Donc il m'a dit bah, « Ok, ça marche, je suis d'accord, c'est une bonne idée ». Ensuite, donc, il a rencontré Josette Grenet, donc, qui s'appelle maintenant... ses grands-parents s'appelaient Chétif, hein, sa famille Chétif, dont on va parler dans les textes. Donc Josette Grenet, elle aussi, avait récupéré 300 lettres dans un grenier, sa mère avait récupéré des lettres, et donc elle en a parlé à Michel Mauny, et donc on a mélangé ces textes Michel Mauny et celles de Josette Grenet, pour faire ce spectacle. On a choisi par thème, etc. Donc la première a eu lieu donc, le 1er décembre 2006 à la salle de Bussy à Joigny. Voilà.
Merci Aldo Magno pour ces précisions. Donc ce soir, tu vas nous lire des textes échangés par les membres de ces familles. Hein, le mari au front et l'épouse restée à la maison, c'est valable dans les deux cas. La différence, elle est sociale entre ces deux familles, puisque les Chétifs sont agriculteurs à Précy-sur-Vrain, tandis que Émile et Léa Mauny, eux, étaient instituteurs à Courlon, c'est au nord de Sens. Hein.
C'est ça. Voilà, donc nous, l'intérêt, c'était de voir un peu deux familles de conditions, de milieux sociaux différents, et de voir un peu ce qui se passait chez les uns et chez les autres, et on s'aperçoit que finalement, le discours est le même. Les mots sont différents, mais le discours est le même. L'ambiance est la même, les critiques, le vécu est le même.
Comment donc les Iconais ont-ils appréhendé les débuts de la guerre de 1914 ? Comment, par la suite, ont-ils vécu durant les 5 ans de cette première guerre mondiale ? C'est donc à travers un choix de correspondance de deux familles bourguignonnes, deux familles iconaises, que nous allons percevoir l'ambiance et l'état d'esprit à l'époque. On estime à 10 milliards le nombre de lettres envoyées, soit plus de 6 millions de missives par jour. Alors comment cette marche à la guerre est-elle perçue ?
Ma chère enfant, ici c'est la désolation. Les hommes et les chevaux partent et les grains sont dans les champs. J'ai vu l'invasion de 70, j'avais 19 ans. Ici, les Prussiens n'ont passé qu'en repartant. Enfin, il faut espérer que ça se passera mieux qu'on ne le pense.
6 août 1914, lettre de Céleste à Léa Mauny.
Ma chère Léa, je vis dans une anxiété continuelle. On se demande vraiment si on ne vit pas un cauchemar. Je fais toutes les choses de la mairie et j'ai fort à faire. Si seulement j'étais auprès de vous, mais toute seule ici, sans personne de ma famille, j'ai peur. Le monde est cependant bien gentil pour moi. Presque tous les hommes sont partis. Il reste les vieillards et c'est tout. Écris-moi, je t'en prie. Si Émile est parti, ne te désole pas trop. Il est dans la territoriale et heureusement moins assujetti que ceux de l'active. Tu as de bons voisins et je suis sûr qu'on ne te laissera pas seul.
28 février 1915, lettre de Léon à Blanche, son épouse.
Ma chère Blanche, les Prussiens sont venus à 35 kilomètres d'ici. C'est pas loin. À La Ferté-sous-Chouard, un camarade nous a raconté ça. C'est affreux. La nuit, il croit encore les voir. Il cause en dormant. Il avait une exploitation de 3 chevaux. Il n'a pas pu apporter seulement une serviette. Ils ont tout pris. Tout.
Les soldats du front, comme les familles restées à l'arrière, commencent à donner des signes de lassitude. On avait prognostiqué un conflit violent, mais bref. Pour ce qui est de la violence, on ne s'est pas trompé, mais il s'éternise au-delà de tout ce que l'on avait pu imaginer. On s'impatiente en attendant le concours de nations alliées. Que font l'Italie et la Roumanie ?
Mon cher Léon, depuis quelques jours, on parle fort ici que l'Italie va s'y mettre. Je me demande si c'est vrai. Tu me diras si vous en entendez parler. Il faudrait bien que ce soit vrai et que ça fasse finir cette guerre abominable et que l'on nous rende nos chers maris, car je t'assure que ce n'est pas une vie d'être ainsi séparés l'un de l'autre. Ma chère Léa, à quand la fin ? Cette guerre dépassera en horreur et en longueur ce qu'on avait prévu. Nous ne sommes pas encore au bout. Il faut bien reconnaître maintenant que nous ne savons absolument rien de positif. Tous les journaux sont absolument vides et en France, où tout finit par des chansons, on finit par blaguer fortement les articles sur l'Italie. Ici, c'est la scie de chaque jour et on prend, en s'abordant des airs mystérieux pour se dire « Tu sais, l'Italie marche et c'est une question de jour. »
Un mois plus tard, fin mai 1915.
Mon cher Léon, va falloir que vous partiez pour la boucherie. C'est vraiment malheureux de voir ça et dire que l'on parle de finir. Je me demande si cette Italie va s'y mettre. Je crois que si elle s'y mettait, ça ferait peut-être une fin.
Lettre de Léon à Blanche.
Ma chère Blanche, un camarade a entendu dire hier soir au bureau, en secret, que la France allait envoyer 5 milliards à l'Italie pour se mettre en campagne, que 200 000 Français passeraient par l'Italie pour combattre de ce côté. Et si ça pouvait être vrai et qu'elle s'y mette bientôt, ça pourrait peut-être aller vite. Ne parle pas de ça. Attendons et espérons. Nous avons quitté Fontainebleau avec acclamation au cri de « Vive la France, vive l'armée !» Et comme c'est le jour de guerre de l'Italie, dans toutes les gares, « Vive l'Italie !» C'est encourageant. Aujourd'hui, nous attendons la Roumanie. C'est tout ce que je peux te dire.
L'Italie ne quitte le camp des empires centraux que le 3 mai 1915. Par le pacte de Londres du 26 avril, elle a accepté de se ranger du côté des Alliés contre des promesses territoriales secrètes. Elle ne déclarera la guerre à l'Autriche-Hongrie que le 23 mai 1915, à l'Allemagne le 28 août 1916.
Mon cher Léon, je me demande bien où t'es en ce moment. J'ai bien peur que tu sois parti du côté d'Arras. D'après les boucheries qui s'y passent en ce moment, tu parles qu'on peut être tourmenté si seulement tu étais envoyé ou employé au ravitaillement. Tu peux croire que si tu n'étais pas parti, je voudrais qu'il t'arrive un accident. Enfin, quelque chose qui t'empêche de partir. Notre cousin Octave a été tué ces jours derniers. Penses-tu que c'est malheureux avec trois pauvres petits-enfants ? Ma chère Blanche, j'apprends à l'instant qu'il sera donné des permissions de moisson aux hommes qui sont dans les dépôts, à condition que ces hommes fournissent un certificat du maire de leur commune, certifiant qu'ils sont cultivateurs, qu'ils ont de la famille et qu'ils sont indispensables pour rentrer leur récolte, qu'ils savent conduire une machine. Donc, va trouver notre aimable maire. Il ne te refusera pas, j'en suis sûr. Il peut même appuyer un peu. Je pourrais avoir 15 jours en raison que nous ne touchons pas d'allocation de l'État. Surtout que ma demande de permission soit datée, c'est-à-dire que je sois chez moi, par exemple, du 20 juillet au 11 août. Tu feras au plus vite. Celui qui ne risque rien n'a rien. Tu me disais sur une précédente lettre que j'aurais bien voulu un garçon. Eh bien, ça m'est bien égal. Car je me dis que mes petites filles ne seront jamais appelées à l'école du crime et que jamais elles seront instruites pour tuer leurs semblables, comme je le suis en ce moment.
Comment les hommes et les femmes du département de l'Yonne ont vécu la tourmente de la Grande Guerre, c'est ce que notre invité et comédien Aldo Magno nous donne à entendre à travers les lectures des lettres échangées entre les hommes partis au front et leurs épouses demeurées à l'arrière. Votre émission littéraire revient, nous vous laissons en compagnie d'une petite pause musicale. Très bonne soirée à l'écoute de Radion, c'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à 22h.
V'là plus d'une année que dans les tranchées, nos petits soldats loin de tout le monde sont là-bas. Tant que dans la bataille, ils bravent la mitraille, ils ne pensent plus à rien qu'à tirer sur les petits Prussiens. Mais quand ils sont hors peau et qu'ils n'ont pas de flingot, couchés sur le dos, À nos poilus qui sont sur le front, qu'est-ce qu'il leur faut comme distraction? Une femme, une femme. Qu'est-ce qui leur ferait gentiment passer un sacré bon moment? Une femme, une femme. Au lieu de voir la tête des Allemands, ils aimeraient bien mieux certainement une femme, une femme. Très bon sang, qu'est-ce qu'ils ne donneraient pas pour tenir un moment dans leurs bras? Une femme, une femme. Quand Henri Bambelle, il bouffe la gamelle, c'est vite avalé, en deux temps ça n'a pas traîné. Ensuite sur la paille, allongé il baille, se faisant nom de nom presque tous la même réflexion. Et dans ce moment-là, à quoi pense-t-il tout bas? Ne cherchez pas. À nos poilus qui sont sur le front, qu'est-ce qu'il leur faut comme distraction? Une femme, une femme. Quand ils ont bouffé leur rata, qu'est-ce qu'ils demandent comme second plat? Une femme, une femme. Sapristi, pour calmer leur mère, si leur arrivait comme dessert, une femme, une femme. Qu'elle soit grande ou petite, ma foi, ça ne fait rien pourvu que ce soit une femme, une femme. Quand dans la tranchée, ils passent la journée, par les petits créneaux, ils envoient aux boches des pruneaux. Puis ils se reposent, pensent à des tas de choses qui leur font crénom passer dans tout le corps des frissons. Avant de s'endormir, ils ont dans un soupir le même désir. À nos poilus qui sont sur le front, qu'est-ce qu'il leur faut comme distraction? Une femme, une femme. Il y a tant d'amoureux là-bas qui pourraient faire plaisir à une femme, une femme. À ce moment, c'est l'essentiel, il faudrait qu'il leur tombe du ciel à une femme, une femme. Et comme prière du soir, ils disent: bon Dieu, fais-nous donc voir une femme, une femme.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Retour sur les banquettes de Wagon Livre ce soir avec notre invité. Il est comédien et metteur en scène, c'est Aldo Magno qui nous accompagne ce soir. Je rappelle que l'émission que nous vous proposons quelques jours avant le 11 novembre a pour but, justement, comme le disait d'ailleurs Roland Dorgelès, que les morts ne soient pas condamnés à une seconde mort, celle de l'oubli. Et Aldo Magno nous propose donc des lectures de lettres échangées entre les hommes sur le front et leur épouse restée à l'arrière. Alors, la guerre de 14-18, bien sûr, il y en a trace dans tous les villages, pratiquement, à travers les monuments aux morts, hein, sur lesquels on va se rassembler et se recueillir ce week-end. Un grand nombre d'écrivains sont tombés au combat, je pense. Alors, j'en oublie bien sûr beaucoup, je mentionne les plus connus, notamment le poète Charles Péguy, tué à 41 ans le 5 septembre 1914 à Villeroy, près de Meaux. Alain Fournier, qui lui est mort très jeune, qui est l'auteur du Grand Mône et qui est tué à la tranchée de Calonne où sa compagnie tombe dans une embuscade. Aldo, tu me rappelais d'ailleurs hors micro que le corps d'Alain Fournier a été retrouvé 77 ans plus tard, en 1991. Et puis, un petit clin d'œil pour moi qui suis originaire du Doubs, mais tu as aussi des attaches dans le Doubs, Aldo, Louis Pergaud, l'auteur de La guerre des boutons, qui lui a trouvé la mort le 8 avril 1915 à Marcheville. Un très jeune homme, Louis Pergaud, qui avait donc 33 ans et qui était instituteur. Alors, les hommes valides étant partis au combat, femmes, enfants et vieillards durent s'employer à faire vivre les fermes, les transports, les administrations et les usines. Ils durent lutter pendant 4 ans contre l'angoisse de la mort d'un proche au combat et la dureté de la vie. restrictions alimentaires, spéculations sur la nourriture, pénurie de charbon ou de pétrole aggravée par la froidure d'hiver très rigoureux rendaient le quotidien pour le moins difficile. Léa Mauny, institutrice à Courlon, qui a alors 52 élèves, en intégrant à sa classe de filles la classe de garçons de son mari parti au front, eh bien, elle se substitue à Émile, son mari, donc, pour assurer en son absence le secrétariat de mairie, domaine qu'elle maîtrise mal et qui nécessite de fréquentes instructions de son mari mobilisé.
Mon cher Émile, le crédit de chauffage des classes est épuisé pour 1914 par un mandat de 250 francs. À Monsieur Leboeuf, où mandat-elle sillage ? Je vais essayer d'apprendre à faire des mandats. Tu dois penser que je serai une bonne aide pour la mairie quand tu seras rentré. Je le crois aussi, sans rire.
Blanche s'implique pour sa part dans les tâches agricoles et prend les décisions qui étaient d'ordinaire du domaine de Léon.
Mon cher Léon, j'ai été ce matin à Précy trouver Garceau, qu'il me coupe du fourrage. Il a guère le temps, mais je l'ai décidé. Il va venir demain ou lundi matin. La mère Cornaille est venue hier m'aider à embourgonner la vigne. Tu parles qu'il y a des raisins, mais ça ne me réjouit pas. Je sais bien que mon cher Léon ne sera pas là pour les couper. Hier soir, Bédrégué m'a coupé un demi-arpent de fourrage. Il m'a dit qu'il me couperait mon trèfle. Je lui ferai aussi couper le pré, car je veux bien que rien ne reste. Je t'assure que je ne croyais pas que les fourrages se couperaient comme ça. Tout le monde cède, il n'en restera pas. Je crois qu'on mettra les blés en terre avant que vous soyez revenus. Il faut compter encore que vous y passerez l'hiver. C'est ça qui décourage. Tu ne peux pas te faire une idée comme le monde est rebuté et de voir que ça ne change pas. Au lieu d'avancer, les Russes reculent tous les jours. Tu dois le voir aussi sur les journaux. Tu penses que les Boches ne veulent pas se rendre. Tu me dis sur ta lettre que tu ne croyais pas que j'aurais pu mener la machine. Tu me croyais donc bien gauche. Et puis je te dirai que cette année, les femmes se mettent à tout. Rien n'est impossible avec du courage et de la bonne volonté. On vient à bout de tout. Je t'écris ce soir à la nuit. Ma lettre partira que demain. Je n'ai pas eu le temps d'en faire une dans la journée. Je vais te dire que je bats à la machine lundi prochain. Hier matin, je me suis levé à 3h30. Toute la journée à courir, à tout et s'occuper. Tu peux croire qu'il ne faudrait pas que ce soit souvent comme ça. Je n'y résisterai pas. Encore une chance qu'il y avait Émile et papa. Enfin, c'est fait et tout a bien été. C'est un rude débarras pour moi.
Léon est blessé en septembre 1915. Évacué à Albi, il écrit à Blanche.
Ma chère Blanche, je suis très loin de chez nous, dans les 850 ou 900 kilomètres. Mais ce n'est pas du tout intéressant. J'ai mis 3 jours et 3 nuits pour venir ici. Je ne me rappelle pas du tout ce qui m'est arrivé. Ça m'a rendu comme fou. Nous sommes beaucoup en traitement ici. 350 blessés ou malades. Plusieurs parmi ceux-là qui sont salement touchés. Tu peux croire qu'ils doivent bien le savoir, le régiment où j'étais. Voilà bien des bureaux où je passe pour les renseigner. Ils vous demandent d'abord le livret militaire, votre régiment, votre blessure, sur quelle partie du front vous étiez, ce que vous faisiez, si on est marié, le nom de votre femme, votre adresse, votre religion, et je ne sais plus quoi encore. Tous ces bureaucrates-là se sont désembusqués, à mon idée, et tout cela, c'est pour leur faire un emploi, les cacher. Mon cher Léon, ce soir, Jacques m'a rapporté une feuille de papier pour qu'on donne pour les blessés. C'est le comité de la Croix-Rouge de Joigny qui viendra, le 20, à la mairie. Chacun apportera ce qu'il voudra. Il demande argent, beurre, lait, œufs, légumes, volailles, lapins, vin, conserves, confitures, fruits. Et ce qu'on veut, chaque maison a sa feuille avec la signature du maire et le cachet de la mairie. Il faut qu'on inscrive dans le bas ce qu'on veut donner et qu'on retourne cette feuille à la mairie. Moi, je porterai la mienne demain en allant faire le cidre. Je ne veux pas être la dernière à donner, moi qui ai un cher blessé et qui voudrais tant qu'il soit bien soigné. Ta mère donnera 20 sous. Et moi aussi, je porterai un lapin, des pommes et 2 bouteilles de vin. J'ai toujours donné à ce qu'on m'a demandé jusqu'à aujourd'hui. Et tu vois, j'en ai pas regret.
Comment les enfants vivent-ils ces circonstances pour le moins inhabituelles ? Un aperçu nous en est donné sous la plume du petit Roger Mauny, qui écrit à son papa au printemps 1915.
Cher papa, je vais te raconter tout ce que j'ai vu jeudi dernier. J'ai été voir les tranchées vers Sergine avec Madeleine d'Auvergne et une bande de filles et de garçons. Nous voici arrivés, nous entrons dans une des tranchées. J'ai vu une grande butte de terre et à côté un trou profond de 1,50 m. Dans ce trou, il y a de la terre tout le long, ce qui forme une espèce de banc pour que les tireurs fussent à l'aise pour tirer. Du reste, pour bien comprendre, j'étais mis la coupe d'une tranchée sur la première page. Jeudi, nous avons été à Sens pour faire des commissions. Nous sommes venus à la gare avec Madame Lamy. Dans le train, on a appris qu'il devait y avoir une remise de décoration à 3h de l'après-midi. On se dépêchera de manger chez Madame Hussel et de faire nos commissions. Après, on se dirigea vers la grande place où devait avoir lieu la cérémonie. Les soldats arrivèrent, puis le colonel et le commandant. Le colonel lut les citations et décora de la médaille militaire et de la croix de guerre bon nombre de soldats. À chacun, il leur donnait deux bonnes poignées de main, et après avoir vu tout cela, on acheta des gâteaux et on s'en alla. Cher papa, je suis bien content que tu aies passé sergent, mais je serais mille fois plus content si tu revenais vers nous apportant la nouvelle de la fin de cette sale guerre. À l'école, je travaille assez bien. Maman nous donne des problèmes qui ne sont pas difficiles du tout. Une fois, maman nous a donné une dictée et je n'ai eu que deux fautes. À une autre, j'en ai eu zéro. Mais il y a des fois, j'en ai eu beaucoup.
Émile Mauny, l'instituteur qui a fait son service militaire à Sens, est mobilisé. Même sur le front, il reste soucieux de l'éducation et de la formation intellectuelle de son fils, le jeune Roger.
Ma chère Léa, Roger tousse-t-il encore ? C'est bon qu'il s'habitue à sortir un peu seul, mais c'est le moment de veiller à ses fréquentations. Il est bon qu'il ait des sous dans sa poche, mais pas trop pour s'habituer à l'économie. Ce qu'il a de trop, il peut le mettre dans sa tirelire, qu'il ne se laisse pas entraîner par les autres à gaspiller ses sous. Donne-lui toujours sa petite somme, et s'il a de trop, je le répète, qu'il pense à sa tirelire. Qu'il ne répète pas inconsidérément ce qu'il entend chez nous et qu'il ne cherche pas à savoir ce qui se dit chez les autres. Il grandit et comprendra bien cela. Il doit être très poli, ne plus tutoyer tout le monde. Je parle naturellement des personnes âgées et non des jeunes gens de la commune qu'il pourrait avoir l'occasion de voir au football et ailleurs. Dire que j'aurais été si content de pouvoir lui dire tout cela moi-même et que cette guerre imbécile m'en empêche. Quand tout cela finira-t-il ? Pourrons-nous un jour vivre tranquillement dans notre petit coin sans aucun souci ? Espérons.
Quant à Émile Mauny, l'instituteur, après ses affectations dépourvues de danger dans le 33e régiment d'infanterie territoriale établi à Sens, puis comme caporal instructeur à l'école militaire préparatoire d'infanterie de Rambouillet, il reçoit son baptême du feu en octobre 1915. Malgré la censure, on dénonce les mensonges de la presse. Le doute s'installe.
Ma chère Léa, ce n'est pas en lisant les journaux, quels qu'ils soient, qu'on se fait une idée de la lutte et du point où nous en sommes. Les journaux ne m'ont jamais beaucoup plu, mais aujourd'hui, ils me dégoûtent profondément. C'est commode d'écrire « nous avons fait ceci, nous avons fait cela », mais quand on est au pied du mur, ou plutôt au fond de la tranchée, on se rend compte autrement des difficultés, des positions très fortes de l'adversaire, de l'énormité de l'effort déjà fourni par nous, et aussi de l'importance de ce qui reste à faire pour recouvrer nos frontières. Une tranchée prise pour les civils de l'arrière, c'est peu de chose, mais si ces messieurs venaient voir un peu le travail sur le terrain même, ils se rendraient tous compte que le proverbe qui dit qu'on ne fait pas d'omelette sans casser deux est encore bien vrai ici. Surtout, ne continue pas à croire les formidables bourdes qui sont lancées un peu partout. Tout cela, c'est le bluff de l'arrière. Les journaux savent si bien arranger les choses que chacun au coin de son feu esquisse un sourire de satisfaction en pensant que toutes les commodités existent pour les poilus et que donc tout va bien.
Vous écoutez Radion 90.5 de Sens à Avallon, c'est Wagon Livre, votre rendez-vous littéraire. Ce soir, une émission qui s'inscrit dans le cadre des commémorations de l'armistice 1918. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Aldo Magno, comédien et metteur en scène, qui nous livre des lectures des correspondances de deux familles bourguignonnes, les Grodet, cultivateurs à Précy-sur-Vrain, et les Mauny, instituteurs à Courlon, dans le nord du département de l'Yonne. Nouvel intermède musical, et nous nous retrouvons bien sûr dans quelques minutes pour la suite de ce programme sur Radion. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h.
C'était autrefois, le dimanche au bois, on partait avec sa maîtresse. Un beau jour d'été, plein de volupté, on allait gaiement se balader. Nous marchions vivement comme des fous, nous moquant de tout, ivres de jeunesse. Bras dessus, bras dessous, joyeux, nous avions tous deux l'espoir dans les yeux. À chaque détour du sentier, on entendait le bruit d'un baiser. Oh la bien belle promenade, tout entrecoupé d'embrassades. Tout près de nous dans les buissons, les oiseaux gazouillaient leurs chansons. Le soleil allait disparaître, on installait le dîner champêtre. On jurait de s'aimer tous les deux, c'est la balade des amoureux. Mais v'là que tout à coup, un beau soir d'août, il fallut partir à la guerre. Déjà l'ennemi approche de Paris, puis la victoire nous sourit. Alors on croit que c'est la fin, mais l'ennemi coquin a creusé la terre. Traqué par nous de tous côtés, embusqué, terré, il veut nous braver. Et malgré le froid et la faim, nous fredonnons chaque matin. Mélancolique promenade, dans les tranchées en enfilade. Les mains crispées sur le flingot et l'œil fixé sur le créneau. Il faut s'armer de patience et savoir souffrir en silence. Un poilu ne doit pas flancher, c'est la balade des tranchées. L'heure est arrivée, il faut attaquer. Dans la tranchée, chacun s'apprête. Le bruit du canon déchire l'horizon, au cœur fait passer un frisson. Tout à coup on crie en avant, hardis les enfants à la baïonnette. On se sent tout grisé, on est emballé, il faut avancer. Et dans la mêlée l'on entend les cris des blessés, des mourants. Oh la tragique promenade, sous les obus, les balles, les grenades. Les fusées dans le ciel ténébreux lancent des éclairs de feu. Pas de pitié pour les victimes, tuer les bandits n'est pas un crime. On revient le cœur palpitant, c'est la balade des combattants. Le combat fini, l'ennemi s'enfuit dans la nuit, reprend le silence. Une torpille par instant dans le firmament, où une marmite passe en sifflant. Mais qu'aperçoit-on là-bas? Un groupe de soldats qui lentement s'avance. Que portent-ils sur leur dos? Un triste fardeau, un mort, un héros. Atteint d'une balle en plein cœur, salut aux morts, au chant d'honneur. C'est la dernière promenade, suivie de tous les camarades. On enterre le pauvre copain au cimetière du patelin. Un dernier adieu sur sa tombe, on se retire, une larme tombe. On veut tout de suite y retourner, c'est la balade pour le venger.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Une émission ce soir, quelques jours avant les commémorations de l'armistice du 11 novembre 1918 que nous passons avec Aldo Magno et avec des lettres échangées durant la Grande Guerre par les couples de deux familles iconaises, nous l'avons dit, les cultivateurs Grodet de Précy-sur-Vrain et les Moni, instituteurs à Courlon, à quelques kilomètres au nord de Sens. Alors, on commence à comprendre que le moral des soldats s'effrite un peu sur le front. Et je voudrais juste lire un extrait des paroles d'une chanson que tu connais bien, Aldo. C'est la chanson de Craon, qui est une chanson militante, engagée. Et je cite juste quelques paroles de cette chanson. « C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. Si pour nous, la vie est rose, là-haut, c'est pas la même chose. Au lieu de se planquer, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous, autres pauvres puritains. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'ils crèvent. Mais c'est fini, et les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. » Et Aldo, on pourrait peut-être, avant de quitter la chanson de Craon, t'entendre nous interpréter un des couplets que tu connais bien et qui se trouvait d'ailleurs inséré dans le spectacle que tu avais proposé il y a quelques années autour de la mise en scène, mise en voix de ces lectures de correspondance de famille bourguignonne pendant la Grande Guerre.
Avec plaisir. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous des condamnés, c'est nous les sacrifiés.
Revenons à la suite de nos lectures. Alors, on disait qu'effectivement, le moral des soldats sur le front commençait un petit peu à s'affaiblir. Et parfois, d'ailleurs, ce sont carrément les responsables politiques qui sont la cible des critiques, notamment dans une lettre que Émile écrit à Léa.
Ma chère Léa, vous allez voir sur les journaux de splendides articles sur Noël aux tranchées. Je viens de lire sur l'œuvre un article où on explique que le soldat a la nostalgie des tranchées, qu'il aspire à entendre les obus, qu'il tue et mange des perdrix en première ligne. Tu parles si nous demandons la faim, mais je crois bien que personne ne s'en soucie parmi nos parlementaires. Enfin, encore quelques années de cette vie et peut-être arriverons-nous alors à entrevoir la faim. Ma chère Léa, savent-ils, les messieurs qui n'ont su préparer ni la paix ni la guerre, ce qu'il faut de souffrance et de vies humaines pour tenir une tranchée? Ils ne connaissent sans doute que les belles tranchées des environs de Paris, bien étayées que l'on fait visiter le dimanche aux belles madames. Ils ignorent la tranchée d'ici, creusée forcément à la hâte, sous le feu de l'ennemi, avec un matériel de fortune par des gens harassés. Enfin, pourvu que ce ne soit pas eux qui aient les statues après la guerre encore. Que maudits soient tous les misérables qui ont amené la guerre.
Léon Grodet est blessé en septembre 1915. Sa blessure met alors fin à sa vie de soldat quelques mois plus tard. Cette fois, Aldo Magno va nous lire une longue lettre de Émile à Léa. Et c'est une lettre dans laquelle Émile raconte l'attaque, le combat en tranchée et les morts. On est cette fois-ci vraiment dans la réalité de cette grande guerre.
Les attaques, on y va une fois, deux fois, 20 fois, Puis finalement, on y reste. C'est ce qu'il y a de terrible dans cette guerre. Répéter continuellement les charges ou les supporter, c'est démoralisant. Car derrière une tranchée, il y a une autre ligne, puis une autre encore. Et la percée qui semble si commode à vous autres est chose impossible. Grignoter le terrain vous semble peu de chose, mais que d'efforts, que de sang pour gagner 20 mètres, que de vies exposées. Pendant ce temps, les poilus sont là, au fond de la tranchée, prêtant l'oreille à tout ce fracas, tâchant de reconnaître de quelle direction est partie l'attaque. Les tirailleurs montés sur l'une des banquettes de tir et penchés sur le parapet sondent le terrain en avant d'eux, le fusil en main. Malheur aux ombres qui se meuvent à l'avant. Alors le tir redouble, les grenades à main se mettent de la partie, et comme des tranchées ennemies, pareilles dispositions sont prises, je vous laisse à penser le nombre de balles, de grenades, sont échangées sans compter les obus qui arrivent et se croisent par centaines au-dessus de nos têtes. C'est un déluge de fer. De temps en temps, on entend un cri, une plainte ou ces simples mots. « Je suis touché !» Un homme se détache du parapet, un camarade l'aide, s'empresse autour de lui, lui enlève son équipement, le soutient, le porte s'il est besoin jusqu'au poste de secours voisin. Parfois, l'homme s'abat de tout son long. C'est alors qu'il est sérieusement touché. Les brancardiers accourent, prévenus d'urgence. Ils s'efforcent de placer le malheureux sur un brancard centre de secousse et les voilà partis avec leur fardeau dans les boyaux vers le poste de secours ou d'évacuation. On entend sur le passage ces mots « Place aux blessés !» Chacun se range rapidement, laisse passer le cortège et reprend sa place au parapet de tir. D'autres fois encore, l'homme s'est abattu et ne bouge plus, ne se plaint plus. On repousse le corps dans un coin en entrant dans une accalmie. Alors les brancardiers l'emportent, enveloppés dans sa capote ou dans une toile de tente, s'il est par trop déchiqueté, loin vers l'arrière, vers un petit coin de terre où il sera inhumé du côté des camarades tombés avant lui. À chaque blessé, à chaque tué, on entend des voisins dire à mi-voix « Qui est-ce? Qu'est-ce qu'il a? Est-il amoché ?» De temps en temps, un blessé se plaint un peu fort. Alors les brancardiers lui disent « Allons, mon vieux, ferme-la, on fait ce qu'on peut !» Et l'autre de répondre « Je me plains pas de vous, mais je souffre !» Et de fait, le transport des blessés dans les boyaux glissants, plein de boue et parfois d'eau, sous les balles et les obus, c'est quelque chose de poignant. Il faut avancer pourtant et déblayer, car tout à l'heure, d'autres pourront tomber et il faudra être prêt à les secourir. De temps en temps, les nouvelles circulent, même pendant l'action. On communique vite entre voisins, de voisin à voisin. Un tel est blessé, tel autre vient d'être tué, etc., etc. Pauvre garçon, répond chacun, et c'est tout. On n'a pas le temps de plaindre autrui. Et puis les blessés, les morts, tout cela devient familier. Voilà le combat en tranchée. Nous resterons dans la tranchée peut-être plusieurs mois, sans revoir l'arrière, du moins. Nous le supposons. Si tu savais comme la terre est remuée partout par les mines, obus et autres choses épouvantables. En avant de nous, à 50 mètres environ, une ligne des nôtres déployée en tirailleurs pour une attaque a été fauchée il y a plus d'un an. Les malheureux sont là, à plat ventre, la tête derrière leur sac, alignés, comme s'ils allaient bondir encore. Dire que chez eux, on les attend toujours. Impossible d'aller les ramasser et les enterrer. Les noms des tranchées sont d'ailleurs suggestifs ici. Nous occupons celle qu'on appelle la tranchée des cadavres. On prend les rats au collet comme de vulgaires lapins. Le soir, à la tombée de la nuit, c'est une cavalcade effrénée sur le haut des tranchées. Et tout cela se bat autour des croûtes de pain et autres débris, cadavres compris.
Lecture de Aldo Magno, comédien qui nous accompagne ce soir dans Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h et nous marquons, si vous le voulez bien, un nouvel intermède musical avant de nous retrouver. Bonne soirée à toutes et à tous.
Je vais chanter le bois fameux où chaque soir dans l'air brumeux rôde l'ennemi venimeux à l'œil de traître. Où nos poilus au cœur altier contre ce bandit de métier se sont battus sans lâcher pied. Le bois, le prêtre, le bois, le prêtre. On est terré comme un renard, on est tiré comme un canard. Si l'on sort gare au traquenard où l'on s'empêtre, dès que l'on quitte son bourbier, on reçoit un lingot d'acier, car l'on est chasseur et gibier. Au bois, le prêtre, au bois, le prêtre. Tous les arbres y sont hachés et des bavarois desséchés là-haut sont encore accrochés sur un vieux être. Ils y sont pour longtemps, dit-on, car même le vautour glouton vous a le dégoût du teuton. Au bois, le prêtre, au bois, le prêtre. Là-bas le fauve c'est le pouce que l'on se gratte, c'est fou. D'abord on lutte avec la poudre de pyrètre, Puis au toto l'on s'aguerrit, et l'on conclut avec esprit. Plus on a de poux, plus on rit. Au bois le prêtre, au bois le prêtre. On est sale, on est dégoûtant, on a tout de l'orang-outan, on rit de ressembler pourtant à cet ancêtre. Dans la boue, on vit et l'on dort, oui mais se plaindre, on aurait tort. La boue, elle a des reflets d'or, au bois le prêtre, au bois le prêtre. Si du canon, bravant l'écho, le soleil y risque un béco, on peut voir le coquelicot partout renaître. Car dans un geste de semeur, Dieu pour chaque poilu qui meurt, jette des légions d'honneur au bois le prêtre, au bois le prêtre. Après la guerre nous irons et nous nous agenouillerons, sur chaque croix nous écrirons en grosses lettres. Si j'y ai un gars plein d'avenir qui sans un mot, sans un soupir, pour la France est tombé martyr, au bois le prêtre, au bois le prêtre.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Avant de retrouver les lectures de Aldo Magno, je rappelle d'ailleurs que les lettres de Léa et Émile Mauny sont disponibles, hein, puisqu'elles ont été rassemblées, annotées par Michel Mauny. Michel Mauny que nous saluons, hein, Michel Mauny qui habite Migennes. Et on trouve ces lettres rassemblées sous le titre « Émile et Léa, un couple d'instituteurs bourguignons dans la tourmente de la Grande Guerre ». C'est notamment l'association Adiamos 89 qui les vend. Et vous pouvez donc adresser vos commandes à Adiamos 89, 7 rue des Mésanges, à Auxerre, ou alors vous rendre sur le site internet de Adiamos 89 et commander par le biais du site. Je rappelle aussi qu'il y avait eu, il y a 4 ans, un colloque qui avait été organisé par Adiamos 89 sur Lyon dans la Grande Guerre. Et là aussi, les actes du colloque sont disponibles. 326 pages, Lyon dans la Grande Guerre, toujours ouvrage disponible par le biais du site Adiamos 89. Revenons aux lectures des correspondances de nos familles, et notamment la dernière lettre de Léon à Blanche. C'est une lettre qui date du 13 septembre 1915 et que Aldo Magno va nous lire.
Ma chère Blanche, hier nous avons touché en plus de l'ordinaire 2 œufs, double ration de vin et puis chacun un cigare et puis repos complet. On nous a rappelé la conduite du régiment, on a présenté les armes pour l'honneur de ceux qui ont été tués et leurs tombes ont été fleuries par des corvées spéciales. Tout cela pour l'anniversaire de la victoire de la Marne. Cette fête sera célébrée tous les ans par l'armée. Faudrait bien qu'on célèbre l'anniversaire de la victoire, de la paix. Ce serait encore plus intéressant.
Cette fois-ci, une lettre de Émile à Léa au printemps 1916. Et là encore, il y est question de la fureur des combats.
On se bat à outrance sur Verdun. On s'amuse à l'arrière. Quel pantin que tous les matamores de Paris et ailleurs. Tous ceux qui tombent seront les innocentes victimes de gens sans scrupules qui vont partout répétant que la victoire est facile. Ces gens-là entretiennent dans le pays une idée fausse de la situation. Nous n'avons pas la victoire et nous avons toujours devant nous un ennemi formidable qui est bien nourri, outillé supérieurement et dressé pour la guerre. C'est un fait indéniable que tous les journalistes nient, que les civils ignorent, mais qui est connu de tous les soldats du front. Tout chez les Boches est calculé, réglé de façon mathématique. Chaque chose arrive en son temps, à son heure. Les gens d'arrière ne veulent pas voir cela. Ils ont tort, car ce n'est pas trouver une solution pour continuer à ignorer de parti pris la situation. Pour cela, il faut que l'on appelle au front tout ce qui reste à l'arrière. Il faut procéder à la levée en masse, levée complète. Il faut qu'on prenne la chose au sérieux à l'arrière. Sans cela, c'en est fait de nous. La tâche est immense. Ma lettre n'est pas destinée à la publication, et j'aime à croire qu'il m'est permis de dire au moins à ma femme ce que je pense de cette guerre. Voilà un an et demi que nous avons quitté nos foyers. Nous ne voyons pas le bout de notre absence. Il faut pourtant qu'on finisse et qu'on s'occupe de la question autrement que ne le font nos députés. C'est la vie de tous ici. Tous les jours, nous perdons quelques-uns des nôtres, plus ou moins selon les secteurs. Cela ne peut pas aller ainsi indéfiniment. Les journaux suent la fausseté. J'irai loin sur ce sujet, plus loin qu'il ne faudrait peut-être, mais si je suis tué un jour, je veux que mon fils sache ce qui nous a manqué pour une victoire rapide. Tu me dis que j'ai l'air désabusé. Les gens qui ne sont pas à la guerre ont une mentalité spéciale, celle des imbéciles qui dirigent les journaux. On peut bien nous tuer tous, peu leur importe, pourvu que leur tranquillité ne soit pas troublée. Ils n'ont pas sous les yeux les vastes cimetières supplémentaires qu'on rencontre partout à l'arrière des lignes, des champs entiers de petits monticules proprement alignés, serrés les uns contre les autres avec chacun leur petite croix de bois peinte en noir. Sur certaines tombes, on affichait dans le sol une bouteille de verre contenant un papier. Le goulot fermé d'un bouchon est planté dans la terre. Après la guerre, on pourra retirer le papier qui porte tous les renseignements nécessaires pour établir l'identité des tués. Dans les lignes, on n'a pas toujours le loisir de procéder de la sorte. On enterre à la hâte, puis on continue à se battre sur les tombes qui peuvent se trouver bien souvent retournées. C'est bien difficile de s'y reconnaître. C'est peut-être macabre, cette énumération que je te fais concernant les inhumations, mais c'est un cliché inédit du front. C'est en voyant cela que ceux qui sont encore debout peuvent mesurer la grandeur de l'effort et l'importance du sacrifice. Tu me parles de ce que vous pensez à l'arrière ? L'histoire dira plus tard que les masses ont tout ignoré de la guerre. Tous les permissionnaires sont d'accord pour trouver qu'on a, à l'arrière, à peu de frais, une très belle assurance. Cette guerre, si la raison n'intervient pas pour l'arrêter, constituera le plus grand cataclysme qu'on ait jamais vu. L'humanité connaîtra à la suite les plus effroyables misères. Ne prenez jamais un journal pour savoir exactement ce qui se passe. Les soldats du front seuls le savent.
Merci Aldo Magno pour cette lecture. Alors, avant de marquer une nouvelle césure musicale, je tiens à vous recommander un ouvrage d'une efficacité remarquable. C'est le Petit Quiz de la Grande Guerre de Grégoire Tonnat aux éditions Pierre de Taillac, un format de poche riche de 100 questions-réponses. Et plus de 25 000 exemplaires ont été vendus à ce jour. C'est très peu cher, ça fourmille d'informations essentielles sur le premier conflit mondial. Et c'est un petit livre qu'on peut glisser sous le sapin à Noël pour ses enfants. En tout cas, c'est fort bien fait et ça répond vraiment aux questions essentielles sur la Première Guerre mondiale. Nouvelle pause musicale à bord de Wagon Livre sur Radion et on se retrouve dans une poignée de minutes avec notre invité.
Je vous écris, ma chère maman, durant que pour un bon moment, notre section est bien cachée dans la tranchée. Tous babileux, tous bons copains, on est là comme des petits lapins. Face au pusco, toute une nichée dans la tranchée. C'est vraiment le petit trou, pas cher. Y'a pas à dire, c'est la grandeur. Quoique la vue soit un peu bouchée dans la tranchée. Mais par l'orchestre d'un casino, par les tziganes ou le piano, on n'a pas l'oreille écorchée dans la tranchée. Nos 75, nos rimélos, nous berçant à l'heure trémolo. On rêve à la France revanchée dans la tranchée. Alors commence sans piternelle les arrosages de leur shrapnel. La terre en est toute jonchée dans la tranchée. Collection de presse papier pour le retour sera pêché dans la tranchée. L'un de nous est mort joyeux en s'écriant tout est au mieux. Voilà ma tombe toute piochée dans la tranchée. Le sergent Quécuré lui dit repose en paix, héros béni, sur qui la gloire s'est penchée dans la tranchée. Nous te vengerons, nous le jurons tous, car la victoire est avec nous. Elle monte la garde près de nous, couchée dans la tranchée.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Merci d'avoir été avec nous ce soir pour ces lectures de textes qu'Aldo Magno nous a offertes. Aldo, on a compris que ces lettres d'Iconet que tu as lues au micro ont fait l'objet d'un spectacle théâtral il y a quelques années, mais spectacle que l'on va retrouver l'année prochaine, 2018, centenaire de la fin de cette grande guerre.
Oui, c'est ça. Donc, le spectacle a été créé donc, en 2006. Le 1er décembre 2006. Ensuite, on a fait une tournée en 1998, c'était le 90e anniversaire. Donc, on a fait une tournée nationale avec l'ONAC, l'Office national des anciens combattants. Donc, un peu en France, on a fait une quinzaine de dates. Et donc, pour 2018, l'année prochaine, on prépare donc une autre tournée. Donc, si vous connaissez des mairies, des associations, des écoles, des collèges, des lycées qui sont intéressés par ce spectacle, ben, on est prêt à venir vous le présenter. Donc, pour cela, il suffit de m'appeler, donc au 06 80 41 14 46, ou alors de m'envoyer un mail, dont voici les références. Donc, c'est En Compagnie des Anges, donc ça s'écrit E-N-C-I-E-D-D-E-S, Ange, A-N-G-E-S, 37@gmail.com.
Merci Aldo, et puis bien sûr, nous ferons suivre auprès de toi si on a des demandes. Je rappelle que cette émission va être mise en ligne d'ici quelques heures sur www.yannickpetit.fr. On rappellera en tout cas les références dans le texte accompagnant le podcast. Juste un petit rappel sur le bilan humain de cette grande guerre. 8 millions de Français mobilisés entre 14 et 18. Mondialement, c'est 70 millions d'hommes qui ont porté l'uniforme donc durant 4 ans. Près de 10 millions sont morts. 30 à 40 millions de blessés. Et ça, c'est un chiffre terrible. Il faut savoir que chaque jour, 900 Français et 1300 Allemands ont été tués entre 1914 et 1918. Alors, le bilan français est très lourd. 1 400 000 morts, 1 million d'invalides, 300 000 mutilés, 600 000 veuves, 700 000 orphelins recensés en 1919, 400 000 immeubles et usines détruits et 3 millions d'hectares de terres agricoles impropres à toute production en raison des bombardements. Et les pertes humaines dans Lyon, elles, on les dénombre à 10 024 morts pour donc notre seul département, ce qui représentait 3,3% de la population de Lyon. Et l'arrondissement le plus touché fut celui d'Auxerre, 3 500 morts, suivi par celui de Joigny. Je rappelle Émile et Léa, un couple d'instituteurs bourguignons dans la tourmente de la Grande Guerre de Michel Mauny. L'ouvrage est disponible par le biais de l'association Adi Amos, que l'on peut se procurer aisément en consultant le site internet de cette association, de même que les actes du colloque qui s'était tenu en 2013, Lyon dans la Grande Guerre 1914-1918. Et puis, j'insiste, ce petit quiz de la Grande Guerre de Grégoire Tonna aux éditions Pierre de Taillac, les 100 questions-réponses pour le centenaire de 14-18. Merci Aldo Magno d'avoir été ce soir sur Radion devant le micro de Wagon Livre, d'avoir été passeur de mémoire de ces Français de cette grande guerre. Merci Aldo d'avoir mêlé et prêté ta voix aux correspondances donc des deux familles iconaises qui ont laissé des traces de leurs conditions de vie au quotidien, les Grodet et les Mauny. Prochain rendez-vous de Wagon Livre, mercredi 15 novembre prochain, toujours à 21h sur Radion, avec un entretien, là on est encore dans l'histoire, avec l'historienne Evelyne Levert pour son dictionnaire amoureux des reines, disponible aux éditions Plomb. Alors avec cette spécialiste du XVIIIe siècle qui a été la conseillère historique de Sofia Coppola lors du tournage du film Marie-Antoinette, conseillère historique, m'a-t-elle dit, non écoutée. Et Evelyne Levert, on l'entend souvent dans les émissions télé de Stéphane Bern sur France 2, eh bien, elle sera devant le micro de Wagon Livre et avec elle, on aura le plaisir de revenir sur nos grandes reines de France, Blanche de Castille, la mère du roi Saint-Louis, Catherine de Médicis, Marie de Médicis, Anne d'Autriche, qui était donc la maman du roi Louis XIV, Marie-Antoinette. Mais on évoquera aussi des reines étrangères comme l'impératrice Élisabeth de Bavière, que vous connaissez toutes et tous sous le nom de Sissi, ou encore Christine de Suède. Voilà en tout cas un réjouissant programme de révision historique avec Evelyne Levert, mercredi 15 novembre prochain à 21h, toujours sur Radion. Merci de votre écoute, merci Aldo, bonne fin de soirée, merci de votre fidélité, au revoir et à la semaine prochaine.